Alors, aujourd'hui, on aborde la question du pardon en corrélation avec la question de l'amour. Notre rencontre est intitulée L'amour comme trace du pardon. Et je pense que si vous avez lu le texte biblique sur lequel nous allons nous pencher, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 50, vous vous êtes dit, ah ben voilà enfin un texte facile et compréhensible. Pas du tout. Ah. On fait bien de se réunir pour en parler un peu alors. Bon, d'accord. Bon, en soi, ça m'inquiète un peu parce que je pense que l'évangile selon Luc est le texte le plus facile de la Bible pour ce qui est de la compréhension. C'est celui qui est le moins crypté, celui qui est le plus proche de nous sur le plan culturel, puisque l'évangile de Luc est écrit par un helléniste, probablement un médecin. Et donc, c'est celui qui fait le meilleur pont entre, disons, Jérusalem et Athènes, pour faire vite, entre la culture de l'Ancien Testament et puis cette culture grecque qui a complètement irradié notre propre culture gauloise. Évidemment, Luc fait référence à de l'Ancien Testament et donc on va voir qu'il y a en sous-texte de l'Ancien Testament, donc peut-être qu'il y a des éléments comme cela qui vont devoir être évoqués. Et puis, on va voir que l'évangile de Luc organise une matière commune à tous les évangiles de façon très personnelle. Et donc, voilà, on va y revenir. Et au fond, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions voir avec ce texte qu'il y a un lien entre le pardon et l'éthique. Et qu'au fond, l'éthique chrétienne ne se fonde pas sur une volonté humaine de bien faire, mais sur une capacité que Dieu nous donne de pouvoir faire. Pour l'instant, ça vous semble bien théorique et vous allez voir quel point ça vous semble bien pratique à la fin. Quel prétentieux je fais. Bien. Je vous propose qu'on commence par lire le texte dans sa version française. C'est une traduction Louis II que je vous ai mis sur cette feuille. On peut la lire dans cette version ou alors dans une que vous avez, une nouvelle Bible seconde, une traduction œcuménique de la Bible. Évitons peut-être le français courant ou le français fondamental. Voilà. À votre convenance. Bon, je vous laisse un peu la parole au moins pour la lecture.
Et si tu nous le lisais en grec?
Je pense que ça manquerait de charme, et puis je maîtrise moins bien la prononciation homérienne que certains d'entre vous. J'ai un peu du mal avec les gutturales. Je prononce les qui au lieu de faire des ri, alors ça marche pas. Donc en français, ça ira très bien. Claudine, vous voulez? Merci.
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Merci beaucoup. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que, dans un premier temps, nous reprenions un petit peu la structure de ce texte. Ensuite, que nous entrions dans le détail du texte, à la fois pour apprécier un peu le grec et puis les références à d'autres textes bibliques. Et puis que, dans un troisième temps, nous en fassions un peu une lecture théologique, disons. Bon. Ces versets sont dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. C'est un chapitre qui traite de la visite de Dieu, qui apporte le salut, et c'est un chapitre qui parle de l'identité des messagers de Dieu. Donc ça, c'est pour le contexte large. Maintenant, si on reprend un peu le déroulement, comme ça va vous permettre de l'avoir dans la tête, indépendamment de tous les petits détails qui nuisent un peu peut-être à une compréhension globale. Il y a beaucoup de détails sur ce que fait la femme, il y a l'histoire qui est un peu curieuse. Si on voit un peu le déroulement, on peut peut-être faire une courbe, en fait. Alors, il y a tout d'abord une invitation. Donc on va avoir quelque chose qui est assez positif, qui est croissant. On a donc Jésus qui est invité à manger chez un pharisien. Et puis, à cette occasion, il y a une femme qui arrive. Ce n'était pas prévu.
Non, il y a moi.
Et cette femme, elle accomplit des actes qui manifestement sont positifs. Donc, ici, il y a la femme. Et c'est l'action de cette femme qui va en fait créer le début de l'intrigue. C'est le comportement de la femme qui va, dans l'esprit de Simon, c'est celui qui invite Jésus, provoquer une réflexion qui va condamner Jésus. Et au fond, l'action de la femme, elle commence à provoquer un déclin. Jésus passe de statut de prophète à statut de non-prophète dans l'esprit de Simon. Donc là, disons que c'est le verset 39. Au fond, ça aurait pu s'en finir là. On aurait pu en arriver à une situation nulle. Mais Jésus reprend la main ici et il profite de l'occasion pour commencer une catéchèse. Et là, il va y avoir un peu une période de flottement, je dirais. Si vous êtes un peu versé dans les lettres grecques, je pense que ce texte, vous pourriez chez vous le lire en écho avec le banquet de Platon. On est en fait tout à fait dans cette perspective-là. À l'occasion d'un repas, il va y avoir toute une discussion sur le thème de l'amour. Et Socrate, qui est mis en scène par Platon, va être comme une sage-femme, comme un maïoticien. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il en fait se place dans la position du maître. C'est quelque chose de curieux, mais on a Simon qui vient de dévaloriser Jésus en disant « ce n'est pas un prophète » et finalement il va l'appeler maître juste après. Donc il y a une période de flottement et puis Jésus reprend la main, il devient le maître avec une parabole qui va avoir deux conséquences. C'est d'expliquer l'attitude de la femme. Donc pour la femme, on va avoir une nouvelle ascension, ce qu'elle a fait est bien. Et pour Simon, il va y avoir quelque chose de double. Pour Simon, il y a à la fois une croissance, tu as bien répondu, tu as une bonne note. Et d'un autre côté, il va être diminué parce que, on va lui dire, au fond, cette femme, elle a fait plus que toi. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement elle a fait ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, mais en plus, elle a fait plus que ce que tu aurais dû faire. Donc, pour Simon, il y a à la fois le fait que il a trouvé la bonne réponse, mais finalement, il va porter un regard sur lui-même qui est bas, en fait. Il va être, en quelque sorte, dévalorisé. Est-ce que c'est grave ? Pas tout à fait, parce que la fin de l'histoire, elle fait qu'il y a un peu une reprise. C'est-à-dire que ce que fait Jésus, c'est de mettre notre Simon qui est tombé en bas en situation d'être la femme qui est ici. Au fond, il dit, cette femme, ça pourrait être toi, Simon. Cette femme, elle était tout en bas au départ, pécheresse. Et puis, tu vois, j'ai réussi à la mettre tout en haut. Eh bien, toi, tu te pensais peut-être tout en haut, eh bien, tu vas pouvoir suivre la même courbe qu'elle, en fait. Et donc, c'est un épisode qui va travailler, je crois, sur le regard que l'on porte sur soi et sur les autres. Et c'est un épisode dans lequel Jésus va être interprète et va, en quelque sorte, nous rendre capables de pouvoir discerner l'action de Dieu dans la trajectoire des individus. Et c'est pour ça que je mettais la corrélation entre le pardon et l'éthique. C'est que l'amour, l'éthique, va être une trace de l'action de Dieu. Et Simon, jusque-là, était incapable de voir quoi que ce soit. Jésus va lui ouvrir les yeux. Et donc, ce qui va être vrai pour la femme pécheresse va être vrai a fortiori pour Simon et pour chacun d'entre nous.
Est-ce que je...
Simon, c'est un pharisien ?
Ici, c'est un pharisien. Mais on va voir que ça peut être un lépreux, peut-être. On va voir ça avec les autres textes de l'Évangile. Mais en tout cas, ici, c'est un pharisien. Donc, quelqu'un qui est versé dans l'étude des Écritures, capable d'une dispute théologique. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'hésite pas à entrer dans une catéchèse avec lui, un peu comme de la maïotique, je vous le disais. Ouais. François.
Concernant le statut de cette femme,
ouais.
J'aimerais bien savoir quel est le terme grec par lequel on a traduit pécheresse.
Eh bien, c'est amartolos, c'est le péché. C'est le péché.
Sans plus de précision.
Sans plus de précision. Alors, commentateurs disent qu'elle était connue dans la ville, elle se trouvait dans la ville, donc prostitution.
Prostitution.
Donc, c'est plutôt sur cet angle-là que je vais vous emmener.
Parce que rien que son arrivée dans cette, au milieu de ce repas dans la maison, avant même qu'elle ait fait quoi que ce soit...
Elle est
pécheresse. Pose un problème manifestement à l'Assemblée.
Parce qu'elle a une réputation qui la précède.
Voilà, à cause de sa réputation.
Et Jésus, lui, va montrer que la réputation ne fait pas la personne. Et il va aller au-delà de la réputation. Et au fond, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la réputation est certainement fondée, mais elle est mal interprétée. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, on verra ça à la fin. Enfin, on verra ça un peu plus loin. Mais c'est-à-dire que une réputation peut être fondée sur des faits avérés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est certainement une prostituée. Il n'empêche que ce que Jésus va montrer, c'est que ce qu'elle est capable de pouvoir faire avec son métier peut témoigner de quelque chose d'extrêmement éthique. Voilà.
Oui. Je trouve ça bizarre qu'elle se trouve dans ce déjeuner, elle n'était pas invitée.
Elle n'était pas invitée, elle s'impose. C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est chez vous. Bon, moi maintenant, il y a Digicode et Interphone. Mais si vous êtes dans un pavillon où il n'y a pas Digicode et Interphone, dans une maison de ville, si vous ne fermez pas la porte à clé, il suffit que quelqu'un ouvre, entre et voilà.
Non, mais il faut remettre ça dans le contexte.
Peut-être qu'elle a quelques clients dans la maison qui n'est pas close.
Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. C'était des maisons qui étaient ouvertes, les gens circulaient, on rentrait dans les cours.
Il n'y avait pas de vigile à l'extérieur.
Je pense
qu'elle
était
introduite. Oui, mais...
Dans les maisons...
C'est une expression que je vous laisse. Elle n'est pas nommée. Le pharisien... Alors que le pharisien n'est pas nommé non plus, il sera nommé après, quand il va accéder à une nouvelle compréhension de la situation. Il va se faire appeler Simon ultérieurement. Au départ, c'est juste un pharisien. Ce que vous pourrez faire, c'est regarder ces textes en parallèle avec les autres textes des évangiles qui parlent à peu près la même chose, mais pas tout à fait pareil. C'est l'onction à Béthanie. Je vous donne les références. Chez Marc, c'est au chapitre 14, les versets 3 à 9. Donc Marc 14, versets 3 à 9. Chez Matthieu, c'est chapitre 26, versets 6 à 13. Et chez Jean, c'est chapitre 12, versets 1 à 8.
C'est curieux qu'il y ait quatre évangiles qui reprennent cette parabole.
Alors c'est curieux. C'est curieux de voir comment c'est repris. Parce qu'en fait, tous les trois là, c'est l'onction à Béthanie. Et si vous connaissez un petit peu le volume des évangiles, chapitre 14, chapitre 26, chapitre 12, c'est à chaque fois la fin. Hein, il y a 16 chapitres chez Marc, on est à la fin. À chaque fois, c'est avant la fin de Jésus. Et l'onction là, elle est comprise comme l'onction du mort. En fait, c'est une anticipation des soins portés aux défunts. Et Jésus lui-même l'interprétera comme cela. Chez Luc, c'est tout à fait différent. Au fond, il va y avoir une onction qui est la célébration de la vie. Marc est le premier des évangiles. La perspective de Marc est vraiment centrée sur une compréhension de la croix. Qu'est-ce que la croix révèle? Qu'est-ce que la mort de Jésus révèle? L'évangile de Luc me semble orienté de l'autre sens, par rapport à la naissance, par rapport à Bethléem, par rapport à Noël. Il me semble que Luc est dans une perspective de compréhension de Jésus à partir de ce que fut sa vie, notamment sa naissance. Et je crois que s'il y a un récit de la naissance chez Luc, alors qu'il n'y en a pas chez Marc, c'est parce que Luc a essayé de montrer que même sur la croix, même dans les récits de la Passion, les éléments qui composent ce récit parlent d'une naissance. Et la meilleure façon de le montrer, c'était de mettre en parallèle un récit de naissance pour donner les outils pour comprendre cela. Mais si vous comparez Noël à la Passion, vous verrez qu'il y a le même genre d'éléments. Il y a à la fois des détails cosmiques, il y a une torpeur chez les uns, il y a les messagers qui font la navette, etc. Jésus est mis dans un lange ou dans un linceul, c'est comme vous voulez, mais il est toujours emballé et on prend soin de la même façon. Même la façon dont la résurrection est évoquée, ça fait un peu accouchement, quoi. Un jour, peut-être qu'on verra ça plus dans le détail. Mais je crois que l'évangile de Luc a ceci de particulier qu'il veut montrer comment on fait pour célébrer la vie. Je pense que c'est aussi un peu dans cet esprit-là que Wilfred Monod a compris un peu la justice de Dieu, qui est toujours comment favoriser le bien pour qu'il l'emporte sur le mal. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre le mal, on produit un excès de bien. Et je pense que Luc est dans cette perspective-là. Et ici, Luc va être, le Jésus de Luc est un peu dans cette perspective-là aussi, c'est-à-dire le péché de la femme, il n'est pas supprimé, il est transfiguré. C'est-à-dire qu'il y a le pardon, il va être en excès. Même l'amour qui va être évoqué ici, il va être transfiguré, vous allez voir ça. Donc il y a des points communs entre tous ces textes. Jésus est invité à un repas. Il y a une femme qui entre et qui, elle, oint Jésus. Donc, c'est-à-dire verse de l'huile sur Jésus ou verse du parfum sur Jésus. Il y a une réaction négative. Jésus défend la femme et en plus, il en fait l'éloge. Voilà, donc il y a ces cinq points.
Mais dans Jean, c'était pas une femme pécheresse, c'était Marthe.
Non, mais d'ailleurs, je n'ai pas dit que c'était une femme pécheresse dans ces points communs. Chez Marc, Matthieu et Luc, il y a un vase d'albâtre, une sorte de vase pour mettre de la myrrhe. Chez Marc, Matthieu et Luc, l'autre c'est Simon, chez Jean on ne sait pas qui c'est. Chez Luc et Jean, la femme verse de l'huile et elle essuie avec ses cheveux. Pardon ? C'est Simon chez Marc, Matthieu et Luc. La femme fait une onction et elle essuie avec ses cheveux chez Luc et Jean. Dans tous les cas, l'argent joue un rôle. Ici, c'est dans l'histoire, une remise de dette. Ailleurs, c'est « Oh là là, comme on aurait bien pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. » Voilà. Et c'est la question des deniers qui est en cause. Les deniers du parfum et pas du culte. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de rentrer dans les différentes séquences. Et puis, on va essayer de faire parler un peu ce texte. On va, en quelque sorte, faire sortir des éléments. Et après ces éléments, on va essayer de voir quelle mosaïque ça crée, en fait. Voilà. Donc, une fois de plus, dès qu'il y a des choses qui vous semblent un peu curieuses, qui vous questionnent, ou vous avez des points de vue à faire valoir, surtout, n'hésitez pas. Bien. Alors, la première chose, c'est que certainement, il vous manque un élément qui rend la situation encore pire que ce que vous pouvez imaginer. C'est quand ils se mettent à table. Ils se mettent à table, en grec c'est kateklino, c'est-à-dire qu'ils s'allongent. En fait, c'est la tradition grecque de manger couché. Rien de scandaleux. Si ce n'est que quand on sait ce qui va se passer ensuite avec la femme, ça en rajoute. Bien, donc, quand il dit... vous voyez, c'est l'euphémisme de la traduction française, mais c'est juste, ils se mettent à table, donc ils s'allongent. Hein, c'est souvent des tricliniums, donc c'est par trois en général que les choses se font. Et puis on a au milieu la nourriture et on se sert comme ça. Bien. Donc, ensuite... voilà la femme pécheresse qui se trouve dans la ville. Donc là, c'est un commentaire du narrateur. Donc, on peut considérer qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature pécheresse de cette femme. Ce n'est pas un commentaire de quelqu'un qui la voit. Non, c'est qu'elle est vraiment pécheresse. On ne qualifie pas la nature de son péché. Donc, c'est vrai qu'une femme pécheresse qui se trouve dans la ville, tous les exégètes s'accordent à dire qu'elle devait être prostituée. Je pense que la suite du récit donne plutôt raison, parce que visiblement, elle semble assez professionnelle dans sa façon de faire. Mais c'est aussi assez large pour que chacun puisse y mettre ce qu'il veut en termes de péché, et que chacun puisse s'y retrouver, et que chacun soit à la place de cette femme. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Donc, on peut imaginer qu'elle a ce vase plein de parfums, donc qui a un grand prix, ce soit le fruit de son commerce. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose qui est le fruit du péché, en plus. Et c'est ça qu'elle va utiliser sur Jésus. Mettez-vous à la place du pharisien. Les pharisiens, ce sont les purs, ce sont les séparés. Ce sont ceux qui ont une lecture de la loi et de la tradition qui conduit à une éthique très spécifique, qui les distingue du peuple vulgaire. Hein. Les pharisiens ont une haute considération d'eux-mêmes. Et ils voient Jésus, considéré comme prophète, qui est en train de se faire approcher par cette femme. Elle se tient derrière, au pied de Jésus. Ben si, vous avez... ici, les trois convives. Donc, admettons que Jésus soit ici. Il a sa tête comme ça, le corps, hop, il est un petit peu comme ça, là, clac, clac. Et elle est ici.
Et derrière, ça veut dire qu'elle s'est coupée de ses talons.
Et alors que ici, il y a la nourriture, en fait. Donc, elle est là. Donc, elle n'est pas au milieu, elle est en arrière-plan. Donc, sur le plan théâtral, ça reste possible. Et elle se tient derrière au pied de Jésus. Et alors, la question des pieds pose problème. Enfin, pose problème. Elle pose question. Une question peut-être à laquelle vous avez des éléments. Car, là aussi, les exégètes s'accordent à dire que dans la tradition biblique, les pieds, c'est en fait une représentation du sexe masculin. Alors, je vous donne quelques références pour cela. Tout d'abord, dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, au verset 25, c'est l'épisode où Dieu et Moïse sont un peu fâchés là. C'est un épisode en général que l'on saute. Chapitre 4 de l'Exode, au verset 25, c'est le retour de Moïse en Égypte. Donc, je vous lis le verset 24. « Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. » On oublie ça, hein ? « Séphora, c'est la femme, prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Vous entendez l'euphémisme ? C'est pas parce qu'on touche les pieds de son mari au sens physique du terme avec le prépuce de son fils que d'un seul coup on devient un époux de sang. L'idée, c'est qu'a priori, c'est une forme euphémique pour parler du sexe de son mari. C'est-à-dire que la conjugalité, elle se consomme par un rapport sexuel. Voilà. Le problème, là, c'est que son fils n'avait pas été circoncis. Hein. Et donc, c'est fait, et au fond, il y a une sorte de rite qui permet de supprimer la faute des parents. Chacun, finalement, est touché par le sang qui est un peu un sang expiatoire. Vous voyez, c'est un rite comme ça, un peu curieux. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 7, Ruth, c'est cette femme très dévouée à sa maîtresse qui va vraiment tout faire pour éviter que sa part d'héritage disparaisse, etc., et qui ne va pas la quitter, qui va rester fidèle et qui va vraiment tout faire pour se mettre à son service. Et elle va tellement tout faire que au chapitre 3, verset 7, voici ce que l'on voit. Donc, je vous lis à partir du verset 6. Donc elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné, vraiment une belle fille dévouée. Boaz mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Donc on est en plein champ. Hein. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Pourquoi est-ce qu'elle découvre ses pieds? Si ce n'est pour qu'il attrape froid. Et elle se coucha. Vous voyez, c'est bizarre si c'est vraiment les pieds-pieds. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Qu'elle soit couchée à ses pieds, certes, mais pourquoi ça serait bon? Voilà. Donc il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux que la première, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Au fond, vous voyez, il y a l'idée qu'elle a trouvé Boaz et qu'elle va pouvoir offrir une lignée, une descendance, alors qu'elle a très bien pu prendre un jeune homme riche, beau, fort, intelligent, etc. Non, elle a fait preuve de fidélité. Mais certainement, ici, les pieds, ça doit être autre chose que des pieds. En tout cas, elle a pris son pied. Ésaïe, chapitre 6, verset 2. Ésaïe. Ceci pour vous dire que, évitez les expressions, vous me cassez les pieds, quoi. Ésaïe, chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. On imagine plus volontiers de croiser les mains sur le bas du ventre que se les croiser jusqu'au bas des pieds. Et au chapitre 7, verset 20, en ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. Bon, moi, je ne sais pas pour vos pieds, hein, mais... Voilà. C'est vous qui voyez. Donc... Je pense qu'effectivement, il est juste de pouvoir dire que les pieds relèvent du symbole phallique, en quelque sorte. Et que donc, ici, il y a une évocation. Factuellement, je ne pense pas que cette femme soit venue s'occuper du sexe de Jésus. Mais en s'occupant de ses pieds, véritablement, elle évoquait une action qui est d'ordre sexuel. On parle du caractère érotique, ça me semblera plus juste. Bien. Elle se met à pleurer. C'est un participe présent.
Il n'y a pas une autre interprétation, puisque quand Moïse arrive devant le buisson ardent,
oui,
il se déchausse.
Oui, parce que le lieu sur lequel il est un lieu sacré. Et donc, il est hors de question de garder les chaussures. C'est exactement ce que fera Josué en entrant en terre promise. C'est aussi ce qui est demandé à des disciples quand ils partent en mission. Parce que c'est une façon de dire que toute la terre sur laquelle ils vont cheminer à la rencontre des autres est un lieu où Dieu se trouve, est un lieu saint.
Mais pas un symbole phallique, d'accord. C'est plutôt un symbole de la présence de Christ en tant que Dieu.
Oui.
Ce que montre plutôt le geste, qui est quand même un geste de, qui est un geste d'onction avec la, avec le fait que quand, là je dois peut-être parler en tant que cadre, que quand on consacre une église, c'est avec l'huile, mais c'était aussi des gestes qui étaient dans le, qui étaient dans la Bible. Dans la Bible, ça revient, on consacre, consacré avec l'huile.
Bien sûr.
Moi, je verrais beaucoup plus ça que,
très bien.
Qu'un symbole sexuel.
D'accord.
Et d'autre part, en ce qui concerne cette femme, nous avons un évangile, alors je ne sais pas les autres, mais nous sommes dans Luc. Luc est un grec. Et en Grèce, il y a des courtisanes qui ont souvent un rôle sacré. Est-ce que on ne pourrait pas le placer dans ce contexte-là ?
Non, je pense que Luc va plutôt utiliser la culture sémitique, la culture de l'Ancien Testament, et la rendre compréhensible pour les Grecs de son époque. Mais oui, c'est chez un pharisien. Mais il va plutôt, je pense, garder les traditions, les us et coutumes de l'Ancien Testament. On va le voir juste après. Parce que justement, elle se met à pleurer. Donc, c'est un participe présent, en fait. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle pleure abondamment, elle pleure longtemps, elle ne s'arrête pas de pleurer. Au point que ça pleut. Au point que ça pleut, en fait. C'est le terme hein, grec, c'est breko. C'est le deuxième sens du verbe breko, c'est pleuvoir. Et du coup, ça arrose les pieds de Jésus. Et c'est la première chose qu'elle fait et que Simon n'a pas fait. Elle lui lave les pieds, en fait. Quand on arrive chez un invité, on commence par se faire laver les pieds. C'est ce que fait Jésus le jeudi saint, par exemple. Hein. Et que le pape fait encore pour le jeudi saint. Et c'est ce qui se faisait habituellement quand on recevait quelqu'un.
Ça ne peut pas être de l'humilité.
Les pleurs.
De l'humilité, de la
quelqu'un. Alors, Jésus va le prendre sous cet angle-là. Il va quasiment en faire un sacrement, hein, le sacrement de la diaconie. C'est le sacrement du service. L'humilité au sens où, effectivement, on s'abaisse pour rendre de la dignité à l'autre. C'est pas ça que vous voulez dire.
Si, c'est pour qu'elle soit plus simple. Pour le délasser, pour le rendre bien, pour le reposer. Et puis être au pied de quelqu'un, c'est peut-être
Mais le lavement des pieds, ça s'appelle région. Mais c'est aussi à cause de la poussière.
C'est pour ça, en fait. C'est d'abord pour ça. Parce qu'on a des sandales. Aujourd'hui, quand on va chez quelqu'un, on a plutôt tendance à se laver les mains, en fait. Et parce que les pieds sont bien protégés. Mais bien sûr, c'est un rite de convivialité, d'hygiène. On lave les pieds à ceux qui arrivent.
Les deux, dans Genèse, les deux anges qui sont venus voir Abraham, les deux passagers, ils lavent les pieds.
Ah oui. Bien sûr, et c'est utile. La question est de savoir pourquoi elle pleure. Qu'est-ce qui lui prend de pleurer? Vous avez des idées là-dessus? Ah, c'est-à-dire qu'elle se force à pleurer pour la nettoyer, pour lui nettoyer les pieds.
Parce qu'elle était venue de rencontrer Jésus. Elle voulait le voir. Elle voulait voir Jésus.
Ouais.
C'est bien dit, hein. Elle est émue, c'est
tout. Oui.
Oui. Bien sûr, parce que c'est lui qu'elle recherchait, en plus. Enfin,
c'est surtout Jésus qui est touché, là, mais oui, d'accord.
Personne ne
fait reproche,
hein. C'est pas écrit, hein.
Mais bien sûr.
C'est ça qui est à souligner, hein. C'est que tout le monde savait ce qu'elle faisait, cette manifestement, mais personne ne lui fait un reproche.
Ouais, les reproches vont plutôt vers Jésus.
Oui. Non, les reproches vont vers le pharisien, en fait. C'est ça qui est un peu choquant, d'ailleurs, parce que le pharisien est l'autre, il reçoit, il a prié Jésus, et finalement, il se trouve pris à partie par Jésus. À partir de l'éloge de la femme, n'est-ce pas? Alors Jésus est coutumier, il a une certaine affection à l'égard, des femmes. Ça se voit très bien dans la Bible. Et alors moi je suis un peu choqué par le fait que, mais après on comprend bien évidemment, mais qu'il oppose l'attitude de la femme. Et si elle pleure, c'est qu'elle est malheureuse, apparemment. Elle a une raison.
Non, elle est pas. Moi, je pense que c'est l'inverse.
Alors, elle est très heureuse. Opposée aux pharisiens.
Non.
Alors, est-ce que ça pose le problème du rapport de Jésus et des pharisiens par la suite? Peut-être. Peut-être.
Il y avait une... À la suite de la réflexion du pharisien, en fait, il a méprise.
Il n'a pas fait de réflexion.
Si.
En lui-même.
Si, en lui-même.
Oh, oui, d'accord, en lui-même. C'est ce que je voulais dire. Mais il n'a pas fait de réflexion publique.
Bah, oui, mais...
Hein? Non, mais en lui-même.
Ouais. Il n'y a eu Jésus aucun reproche, ni aucune...
Alors c'est ça. Pensé, je vous propose de le voir quand on va arriver à ce moment du passage biblique. Pour l'instant, on en est aux pleurs. Les pleurs, alors à la fois c'est bien d'essayer de comprendre les pleurs par rapport à ce que nous-mêmes on comprend des pleurs, c'est bien d'essayer de les comprendre aussi par rapport au texte biblique pour voir dans quelle situation on pleure dans la Bible. Ah oui, eh oui, pas mal ça, hein ? Genèse chapitre 33 verset 4. Joseph et ses frères. Ils s'embrassent, ils pleurent, etc., parce qu'ils se réconcilient. Ils pleurent de joie à l'occasion d'une réconciliation. Genèse, chapitre 45, verset... Je vous ai des bêtises. Genèse 45, verset 15, c'est Joseph et ses frères. Genèse 33, verset 4, c'est Jacob et Ésaü. Vous savez, c'est juste après le passage du Jabok. Genèse 33, verset 4, c'est Ésaü et Jacob qui se retrouvent, ils s'embrassent et ils pleurent. Pourquoi ? C'est ce que j'avais eu l'occasion de dire à l'occasion de ce passage-là. C'est qu'au fond, s'il n'y avait pas les pleurs, ça serait juste de la diplomatie. Les pleurs scellent la véritable réconciliation. Et les pleurs témoignent bien sûr de l'affection, de l'émotion, mais d'une réconciliation. Et au fond, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que a priori, il y a la trace d'une réconciliation. Donc la question, ça sera de savoir, mais qu'est-ce qui est réconcilié ? Parce qu'évidemment, on pourrait dire, cette femme, elle pleure pour jouer la comédie, pour attirer l'attention sur elle, pour faire pitié, pour que Jésus s'intéresse à elle. Mais on va voir que Jésus n'a pas du tout pitié de la femme. Il a un regard sur elle qui est un regard finalement plutôt objectif du point de vue de Dieu. Et du coup, voilà que cette femme pleure au point que ça pleut. Les pieds des convives qui auraient dû être lavés le sont désormais. Et après s'être occupé de ses pieds et de les avoir copieusement embrassés, c'est un verbe à l'imparfait en fait, donc ça dure. Ça dure, ça se reproduit. Elle ne se contente pas de le faire une fois. Ce n'est pas un passé simple. Ce n'est pas ponctuel, c'est répétitif. Elle pleure longtemps et elle embrasse longuement. Ça, ça me semble un peu érotique quand même. Hein. On ne fait pas ça avec les dédicaces pour les temples. Hein.
Dans ces pays-là, on en a beaucoup de...
Oui, c'est des
enfants. Une femme qui embrasse un homme dans ces pays-là, mais jamais de la vie. Une femme qui essuie les pieds avec ses cheveux, c'est-à-dire une femme qui a défait ses cheveux, mais c'est une indécence comme c'est pas permis. Les cheveux doivent être couverts. Vous savez qu'aujourd'hui encore, dans le judaïsme orthodoxe, de toute façon, il n'y a même pas de cheveux pour les femmes. Ça relève... Ben oui, mais le but, c'est de comprendre le texte. Une femme qui a les cheveux dénoués, qui en plus tripote les pieds d'un homme avec, en public, devant des autres, c'est d'une indécence sans limite, ça. On est dans une véritable chorégraphie de l'érotisme.
Non, mais c'est une situation complètement impensable.
Ouais, ah oui. C'est pas moral ce qui se passe là.
Non, c'est pas. C'est pour ça qu'on lui reprochait de fréquenter les prostituées.
Oui, dans une certaine mesure, on pourrait lui faire des reproches, oui.
L'amour transcende tout.
Oui, mais ça, pour l'instant, Simon n'est pas au courant.
Il n'est pas au courant parce qu'il n'est pas très clairvoyant.
Mmh. Oui, c'est ça. Donc, après s'être occupée de ses pieds, elle fait l'onction. L'onction, c'est ce que l'on fait au roi, au prêtre. C'est aussi ce que l'on fait aux convives. Les convives, certes, on leur lavait les pieds, mais on versait aussi de l'huile sur la tête. Le psaume 23, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde » quand on est dans la maison de l'Éternel. Chez Colette aussi, on a un petit peu de ça. C'est classique. Hein. Nous, aujourd'hui, on arrive chez quelqu'un et il nous asperge de parfum. On se dit « Wow, wow, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sens pas bon, quoi. » Là, en fait, c'est déférent. C'est une façon hospitalière d'accueillir la personne. Voilà. C'est bon de prendre soin.
Jésus à la bonne franquette, quoi. Il a pas lavé les pieds.
Il aurait dû, même si c'est la bonne franquette.
Ah ouais. Mmh. Ouais.
Bien sûr.
Non, je me suis dit peut-être que c'était juste, voilà.
Non, c'est. Mais même un petit frichti, c'est. C'est. Ouais, ouais.
Est-ce qu'on est sûr que les pieds n'ont pas été lavés?
Mais en tous les cas, Jésus, il s'est pas aperçu qu'il s'était fait laver les pieds puisqu'il dit toi tu l'as pas fait.
Bah, si, c'est écrit. Jésus lui dit, tu ne m'as pas lavé les pieds.
Jésus entra dans la maison.
Tu ne m'as point donné de baiser. Voilà. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Moi, je veux bien que Jésus soit un menteur, mais il y a des limites à tout, quand même.
Mais oui, tu ne lui as pas lavé, il lui dit. Il lui dit, tu ne lui as pas lavé. Mais bon,
l'a invité, un peu pour le mettre sur le gris.
Je pense que... Peut-être, oui, c'est peut-être un petit peu ça. C'est-à-dire que, au fond, il n'est pas impossible que Simon ait fait ça de façon un peu... Non, je ne sais pas, mais peut-être avec une idée en tête. Il voulait peut-être l'interroger sur une question. Il avait, enfin, disons que ce n'est pas pour Jésus que Jésus a été invité. Et donc, Simon n'a pas pris soin de Jésus. Et au fond, vous voyez, je fais une transposition. Mais c'est peut-être un peu comme quelqu'un qui arrive dans un hôpital... Et dans le service où il est, le chef de service s'occupe de son symptôme, mais ne s'occupe pas de la personne. Et ça veut dire que la personne, elle va peut-être être soignée sur le plan physiologique, mais sur le plan humain, ça va être peut-être lacunaire. Voilà. Et donc, on est un peu dans ce même registre. Peut-être que Simon a invité Jésus pour l'interroger sur une question théologique. Moyennant quoi, Jésus est réduit à un théologien. J'invente parce qu'on n'a pas de précision. Mais manifestement, l'humanité de Jésus n'a pas été assumée.
Il a déjà changé, quand même.
Suivi, enfin, je sais pas où ça se situe. Un peu dans
il y avait déjà des conflits. Hein.
Il y avait déjà,
la prédication de Nazareth n'avait pas été très bien reçue un peu plus tôt, etc.
Donc il l'invite un peu pour tester ce type comme ça.
Oui. Mais il manque à tous ses devoirs quand même. D'autres.
Peut-être. Peut-être.
Le mépris.
Oui,
le
mépris.
Ouais, je crois que le projecteur est plutôt mis sur le fait que la femme aura finalement fait plus que les convenances habituelles. Je crois que le projecteur, vous voyez, est davantage mis sur l'attitude extrêmement positive de la femme que sur l'attitude négative de Simon. C'est-à-dire que, certes, il y a un reproche que l'on peut comprendre de Jésus vers Simon, mais c'est d'abord parce qu'il y a ce verset 39 où Simon se dit... Bah celui-là, il ne peut pas être prophète, sinon il ne se laisserait pas approcher par cette femme. Il saurait qui elle est, et donc il mettrait une distance entre elle et lui. Jésus est conscient de cette réflexion, et il réagit. Mais il fait quoi? Il fait... on en est là ou je vais un peu trop vite Ouais, disons qu'on en est là. Il fait exactement ce que Nathan va faire à David dans le livre de Samuel. Vous savez, Samuel qui couche avec Bethsabée. Et Bethsabée est enceinte.
David. Non, c'est David qui couche avec Bethsabée.
Ouais, je dis quoi?
Samuel.
Non. David couche avec Bethsabée. Bethsabée tombe enceinte, mais Bethsabée était mariée à Uri. David va essayer de camoufler ça en faisant en sorte que Uri couche avec sa femme, mais Uri, qui est un homme très digne, dit non, 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 je fais la guerre, pas le temps de jouer à ça. Donc, la seule façon, c'est de se débarrasser du mari. David l'envoie au front, il le fait tuer, et ensuite, Nathan va faire un petit travail auprès de Samuel, c'est 2 Samuel, chapitre 12. Il lui raconte une petite histoire, un gros propriétaire qui a vraiment tout ce qu'il faut, qui va tuer la brebis d'un petit propriétaire et pour comme ça se régaler tranquillement. David dit, mais qui est cet homme-là? Indique-le-moi, je vais avec son compte. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. C'est une histoire, une parabole qui de Samuel 12. Roi, c'est avec Salomon. Une histoire qui permet un peu de dédramatiser et que chacun puisse être d'accord avec une histoire qui, a priori, ne le concerne pas et qui, en fait, ne parle que de lui. Mais évidemment, si c'était une confrontation, une opposition frontale, eh ben, on trouve toujours des contre-arguments. Mais quand on parle d'autre chose, eh ben, là, les défenses tombent. Quand on est quand on a une autre situation que la nôtre à juger, on est en général plus objectif. Et puis après, on se rend compte que la situation, en fait, c'est la nôtre. Et du coup, on ne peut pas se dédire du jugement qu'on a déjà porté.
Moi, je trouve que l'attitude du pharisien, je trouve qu'il a une attitude plutôt digne. Il est certainement choqué par cette femme qui fait irruption, là, et ce qu'elle fait. Il aurait pu la chasser. Il aurait pu l'invectiver. Il dit rien. Il se contient, il dit rien.
Tout à fait.
Il l'accueille aussi.
Il l'accueille aussi, finalement.
En tout cas, il la tolère.
Il la met pas à la porte.
Il la tolère.
C'est une maison de tolérance. Hein.
Donc, à ce point, à ce niveau-là, je ne trouve pas qu'il soit critiquable, le pharisien. Il a une attitude réservée.
Dans les évangiles.
Et alors, ça ne suffit pas à Jésus. Ouais. Jésus comprend sa pensée. Ça se lisait peut-être sur sa tête. Hein, ouais. Et alors il en fait tout ce qui lui répond, enfin tout ce qui suit, mais donc le pharisien se trouve dans une, c'est lui qui se trouve dans une position après
d'accusé, en fait.
Au départ il n'a pas une attitude critiquable, enfin il est non, c'est pas...
De façon générale, dans les évangiles, je pense que les pharisiens sont quasiment les meilleurs d'entre tous. Parce qu'évidemment, en permanence, ça va être la confrontation avec Jésus, et Jésus, en permanence, va les retourner un peu comme des crêpes ou les mettre en accusation. Mais au fond, les pharisiens ont ceci de remarquable, c'est qu'ils sont honnêtes. C'est-à-dire qu'ils sont entiers et honnêtes. Mais souvenez-vous de cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Eh bien, ils ont l'honnêteté de dire qu'eux aussi sont pécheurs, finalement. Vous voyez, c'est-à-dire que le problème que Jésus repère chez ces pharisiens, c'est qu'ils sont champions en morale, donc ils ont, disons, un niveau minimal qui fait que, sur le plan des conventions sociales, ça se passe bien. Effectivement, ils sont bien éduqués, et donc ils ne vont pas faire de scandale avec cette femme qui arrive. Ils temporisent. Mais... le problème que relève Jésus, c'est que vous avez une morale, mais vous n'avez pas d'éthique. C'est-à-dire que vous êtes capable de neutraliser des situations problématiques, mais vous n'êtes pas capable d'être artisan d'une situation qui progresse. Vous n'êtes pas capable d'être l'artisan du bonheur de l'autre. Vous êtes capable d'éviter que ça s'envenime, vous êtes capable d'éviter la catastrophe, c'est ça la morale. C'est le statu quo, c'est faire en sorte qu'il y ait une harmonie. L'éthique, c'est comment faire en sorte que ça s'épanouisse. Comment faire en sorte que la vie soit croissante et se développe? Ce que disait Ricoeur, c'est que l'éthique, c'est une visée. Alors que la morale, c'est plutôt une sorte de statu quo, disons. La morale, c'est le code de la route. Quand on connaît le code de la route, on ne sait pas encore conduire, en fait.
Voilà. Quand il les traite de sépulcre blanchi.
Oui, ça veut dire que c'est mortel. C'est le statu quo. C'est stérile, en fait. En fait, le problème, c'est ça, c'est la stérilité. Et on voit bien que cette femme, elle n'est pas du tout dans le registre de la stérilité.
Alors, il y a deux mots, c'est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc, pour le pharisien, on ne devait pas être touché. Le fait de toucher, là, c'était impur.
Mais toute femme, il faut bien comprendre, les femmes n'ont pas le droit de toucher les hommes. Parce qu'elles ont peut-être leurs règles. Donc elles risquent de rendre l'autre impur. Alors en plus, celle-là, elle est pécheresse. Mais aujourd'hui encore, vous, mesdames, ne vous avisez pas de serrer la main d'un rabbin. Parce que vous allez vous voir opposer une fin de non-recevoir. Et c'est compréhensible. Vous ne pouvez pas avoir votre certificat comme ça. Donc,
c'est incroyable.
Bon, toujours est-il que ça permet de comprendre le texte. Ouais. Ouais, on a peut-être aussi nos crispations qui ne sont pas forcément meilleures sur certains points. Hein. Ne vous échauffez pas. Ici, ce qu'il y a en fait, c'est l'opposition entre trois connaissances. Il y a trois connaissances qui s'affrontent. Il y a la connaissance du verset 37. Hein, à chaque fois, c'est ginosko. Hein. C'est la femme qui sait qu'il y a Jésus dans la maison. Ensuite, il y a le pharisien qui croit savoir au verset 39. Donc là, c'est Eginosken. Cet homme, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, que c'est une pécheresse. Voilà. Et il y a finalement le savoir prophétique de Jésus qui répond à l'erreur de jugement de Simon.
Et alors, il y a autre chose, mais vous voulez peut-être l'évoquer un peu plus tard.
On va voir.
C'est à la fin. Jésus, finalement, il fait. On peut se demander ce qu'il fait pour cette femme.
Oui.
Alors, la réponse est à la fin du texte. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés.
Ah oui, alors ça, on le verra à la fin. Hein.
Voilà, c'est ça.
Alors, ouais, ouais.
Bon, là, je ne veux pas anticiper, ouais. Mais parce que c'est ça qui fait scandale, en fait.
Oui, pour le reste des convives.
Oui,
ouais, ouais, absolument. Ça, ce qui était déjà un peu le cas avec le paralytique. Mais on va y revenir.
Oui, oui.
Très bien. Mais on arrive à la petite histoire maintenant. Donc c'est la deuxième séquence, c'est les versets 40 à 43. Donc Jésus raconte une histoire symétrique, donc un peu dans l'esprit de ce que Nathan... D'ailleurs, ce n'était pas Samuel, c'était Nathan qui raconte l'histoire à David. Vous me laissez dire n'importe quoi. Hein. Donc, 2 Samuel 12, c'est une histoire aussi pour ouvrir Simon à une réalité nouvelle qu'il n'a pas vue. Les paraboles, c'est fait pour ouvrir les sens, ouvrir les yeux. Et ce qui est intéressant là, c'est que il y a l'introduction du mot pléion, c'est le comparatif, plus au verset 42. Plus, lequel l'aimera le plus ? Une comparaison. Et la fin de l'histoire, il y a Jésus qui répond à Simon, orthos et krinas. Tu as répondu de façon orthodoxe, tu as répondu juste. Et c'est pas loin de ce que dit Socrate. Socrate dit « panou orthos » hein, dans le dialogue de Platon. Bien répondu. Bien vu.
Jésus,
très bien.
À propos de cette interrogation « lequel l'aimera le plus ?» fait penser aussi au bon samaritain. « Lequel est son prochain ?»
Oui.
Il renvoie et ne donne pas la réponse. Il pose,
voilà. Il pose la question.
Il pose la question.
Mais oui. Vous avez raison, parce que précisément, les gens qui passent près de cet homme laissé à demi mort ne veulent pas se salir. Eh oui, bien sûr. Donc, voilà l'histoire qui, elle, est assez compréhensible, hein, une remise de dette. Après, on y reviendra dans la lecture théologique. Ensuite, troisième séquence, c'est les versets 44 à 47. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus constate que le pharisien est capable de progresser. Cela se voit dans le grec. Au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela... Donc, et il donne, il voit. Et au verset 44, c'est se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme ? On peut se dire c'est pareil, mais en fait c'est le verbe blépein, scruter. C'est-à-dire que, vous voyez, une progression entre le verset 39 et le verset 44. il y a Jésus qui estime que Simon est capable de voir plus loin, d'avoir une vision approfondie. On passe d'une vision à quelque chose qui est d'ordre du... Voilà, on scrute comme un scientifique regarde dans son microscope. Voilà. Pourquoi ? Parce que avec la petite histoire, plus les trois gestes de la femme, eh bien tout cela devrait révéler à Simon ce qu'il n'a pas fait à Jésus. Alors maintenant, je fais semblant de vous laisser un peu la parole, au moins sur le verset 47. Il est problématique, le verset 47. Vous allez me dire comment vous le comprenez. Parce qu'il y a une sorte d'opposition, une contradiction dans les termes. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Est-ce que vous voyez une contradiction ? Hein, vous intéressez pas à la ponctuation, là, malheureusement, elle y est, mais il n'y a pas de ponctuation dans le texte grec.
Qu'est-ce qui prouve que la pécheresse a aimé Jésus ? C'est ça qui pourrait. Jésus dit qu'elle a beaucoup aimé.
Oui.
Bon, oui, d'accord, mais on ne connaît pas ses motivations profondes dans son attitude. On voit certains aspects de la personnalité, c'est un fait qui est très bien décrit, avec certaines outrances par rapport aux mœurs du moment, ça c'est clair.
Oui.
Mais on ne sait pas ce qu'elle a dans le cœur, la pécheresse, d'ailleurs, elle ne s'exprime pas. Alors,
Jésus fait l'hypothèse qu'avec tout ce qu'il y a à voir, nous devrions être au courant. À mon avis, comme ça, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs qui sont la clé de compréhension.
Il y a une autre parabole, quand un père s'adresse à ses fils et qu'il leur demande quelque chose, il y en a un qui dit oui.
Et qui ne le fait pas.
Voilà, et l'autre qui dit non et qui le fait. Hein, donc c'est aux actes qu'on juge la personne, c'est ça.
On reconnaît l'arbre à ses fruits.
Moi, j'aimerais, si vous pouvez m'éclairer, sur le parallèle avec le fils prodigue. Parce que dans le fils prodigue, il y a une réflexion du deuxième frère qui, moi, m'interpelle à ce moment-là. Où j'ai fait tout ce qu'il faut, et quelle est ma récompense ?
Et il n'a pas fait tout ce qu'il faut. Il a fait que ce qu'il devait faire. Il est resté dans le registre de la morale. Il a fait que ce que son père lui a demandé de faire.
C'est ça que vous voyez, entre le registre de la morale et le registre de l'éthique.
Ben oui, bien sûr. Il a oublié de vivre, cet homme-là. Il a oublié de vivre. Il aurait pu rester, mais vivre, garder sa personnalité. Non, il n'a été que l'ombre de son père. Et c'est ce qu'est Simon. Le problème de Simon, c'est qu'il est dans le registre de la répétition. Mais le verset 47, regardez, on pourrait le comprendre.
À propos de
la chronologie.
Dans la relation entre le pardon et l'amour.
Exact.
Dans les deux, ça, il y a une contradiction.
Exact.
On a l'impression qu'il faudrait beaucoup pécher pour être beaucoup pardonné. Ça, c'est et donc être capable de beaucoup d'amour. Et si on pêche peu, on n'est pas beaucoup pardonné, donc on n'est pas capable de pécher.
Alors, ça, c'est ce que disait un peu Luther. Plus je pêche, plus je suis pardonné. Et à mon avis, ça pourrait être un encouragement à pêcher pas mal comme il fallait. Je crois que ce n'est pas tout à fait le propos de Jésus ici. C'est pas un encouragement à pécher d'autant plus que ça serait l'assurance d'être pardonné en grande quantité. Mais effectivement, il y a une ambiguïté parce qu'on peut se dire, il y a soit l'idée qu'il faut être pardonné pour pouvoir aimer, soit l'idée qu'il faut aimer pour être pardonné. Et vous seriez sur, il faut aimer pour pouvoir être pardonné. Voilà. Moi, je pense que Jésus dit l'inverse. Alors, là, il va falloir regarder un peu le texte grec. Donc, le verset 47. Donc, il y a, disons, le verset 47b, la deuxième partie. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc, l'idée, c'est qu'il y a d'abord le pardon et ensuite l'amour. D'accord. Mais c'est sur la première partie que la difficulté se pose. On pourrait penser... Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. C'est à la condition d'avoir beaucoup aimé que ses péchés sont pardonnés. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. On y va ? Bien. Donc, vous avez au verset 47. Donc, c'est pourquoi je te le dis, virgule. Il y a le verbe aphiemi, c'est le pardon. Les péchés de elle, nombreux. Oti, et là c'est un relatif. Et le relatif c'est agapé polus, donc beaucoup d'amour. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas un relatif qui est une conséquence, c'est un relatif qui est en quelque sorte une signature. Et oui, c'est-à-dire que c'est pas la condition, mais la conséquence. C'est-à-dire que je pense qu'on peut le comprendre, et du coup, c'est un peu le sens de ces deux points. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux ont été péchés du fait qu'elle a beaucoup aimé, mais non pas du fait, enfin comment vous dire, du fait que l'on voit qu'elle a beaucoup aimé. C'est-à-dire que l'amour est la signature du pardon. C'est-à-dire que le « oti », ça devrait être traduit par un « que ». « Oti », c'est « que » en général, oui. Oui, mais c'est-à-dire que par rapport à la restitution française, c'est un peu complexe pour que ça soit du bon français et en même temps fidèle au texte grec. Donc, je comprends qu'il n'y a pas forcément une contradiction dans les termes entre les deux séquences de ce verset 47. Ces nombreux péchés ont été pardonnés.
Oui.
La preuve, c'est qu'elle a beaucoup aimé.
Voilà, ça c'est le principe. Et puis alors, dessous, c'est le raisonnement à contrario.
Ben non, du coup, ça va dans le même sens que le raisonnement du dessous.
Oui.
Alors, on peut s'interroger sur le mot pardon, l'action de pardonner. Mmh. Quand on pardonne, on pardonne tout. Mm. Je veux dire, il ne te vient pas à l'idée de pardonner qu'un petit peu. Mm. Pardonner qu'un petit peu et puis laisser à côté,
c'est pas du pardon.
C'est pas du pardon.
Ouais.
Donc, la deuxième partie, quand on pardonne peu, on aime peu, ça me paraît critiquable. Enfin, ça me paraît par rapport au premier verset, là, la première partie du verset, ça me paraît une contradiction.
Il n'y a pas de contradiction.
Non, parce que, en fait, c'est un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire que si on est juste un peu pécheur, il n'y a pas besoin de pardonner beaucoup. C'est-à-dire que le pardon, il va être à la hauteur de ce qu'il y a à pardonner.
J'ai fait une distinction, là. Juste un peu pécheur. On est pécheur ou on n'est pas pécheur?
Oh, ouais.
On n'est pas un peu pécheur.
Si. Moi, je comprends pas. La distinction est décisive dans l'esprit du pécheur. Simon s'estime peut-être un peu pécheur du bout des doigts, parce qu'il sait qu'il a dû faire un peu de ceci ou un peu de cela, donc il n'a pas besoin d'être beaucoup pardonné, de son point de vue. Mais je suis bien sûr d'accord avec toi, on est tous à égalité dans cette zone-là. On est tous très loin de ce que l'on pourrait être. Et le péché, c'est pas une catégorie morale qui consiste en une liste de fautes que nous avons commises. C'est bien plutôt le fait qu'on est un peu trop courbe là où on devrait être un peu plus droit, disons peut-être, je ne sais pas. C'est la question de la proximité de Dieu, c'est-à-dire qu'on a toujours une distance qui nous sépare de l'espérance de Dieu. Donc il y a quelque chose d'anthropologique dans le péché, plus que quelque chose de moral. Mais dans l'esprit de cette femme pécheresse, tout l'accuse. Elle sait qu'elle fait commerce de son corps et que du coup, son corps devient un objet. Et ce n'est pas fabuleux. La société l'accuse. C'est une prostituée, pour ne pas dire autre chose. Donc en permanence, le regard de la société la renvoie à sa condition. Vous savez, c'est le principe de l'étoile jaune. C'est le principe de tous les triangles. C'est le principe de toutes les étiquettes qu'on pose. Vous allez au Chili, il ne fait pas bon traverser la rue au feu rouge quand vous êtes noir. On se fait arrêter. Information fraîche d'hier. Bref, il y a des choses que l'on porte sur soi qui font qu'on sent qu'on n'est pas très clair, quoi. Du coup, plus on a conscience de cela, plus on est pardonné. Plus, ça ne veut pas dire qu'il y a un pardon limité, qu'il y a un pardon sectorisé, mais
une graduation.
Voilà, Vous vous rendez bien compte que si vous êtes à votre rattrapage du bac, que vous avez 25 points de retard ou que vous en avez 8, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si le jury hop, vous met une petite rallonge, vous êtes plus content si vous avez 40 points à rattraper et que vous les avez que si vous avez 2 points à rattraper et vous avez dit, oui, de toute façon, je me doutais bien que je les aurais. Donc, au fond, c'est sur l'effet que le texte se positionne. C'est-à-dire que on va être d'autant plus démonstratif que la résolution a nécessité beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous êtes en train d'établir un planning pour votre service. Bon, vous avez un creux dans votre planning. Vous arrivez à le remplir, vous êtes content. Vous aviez 25 creux à remplir dans votre planning. Une fois que c'est fait, vous avez d'autant plus la pêche. Vous êtes en train de jouer au rugby, vous avez 25 points à remonter, vous les remontez et vous passez devant, bah vous serez d'autant plus heureux que si vous étiez toujours en tête depuis le début du match, quoi. Plus satisfaction, quoi. C'est au niveau du ressenti, c'est phénoménologique, en fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Car elle a beaucoup aimé. Alors, est-ce que Car elle a beaucoup aimé les hommes dans l'exercice de ses fonctions, ou est-ce que c'est un...
Non, parce qu'elle n'a pas aimé les hommes dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'a pas aimé.
Cet amour,
ici.
C'est quoi? Qu'est-ce qui permet?
Alors d'abord, c'est l'agapé.
Car elle a beaucoup aimé.
Bah, parce qu'il vient de se faire aimer.
C'est lui.
Il vient de se faire aimer. Elle a témoigné de l'agapé.
C'est là qu'elle a osé faire publiquement vis-à-vis de Jésus.
Un acte d'amour.
Oui, mais c'est-à-dire qu'elle a fait à Jésus ce qu'elle ne faisait pas à ses clients.
Parce que ses clients, c'était les roses, tandis que vis-à-vis de Jésus,
c'est de l'agapé. On va y revenir parce que c'est exactement ça, en fait. Vous avez tout compris, c'est super, c'est impeccable. Moi, je suis content. C'est impeccable. Oui, juste pour vous dire, c'est intéressant la discussion qu'on vient d'avoir sur la chronologie, parce qu'en fait, c'est ça qui distingue les protestants des catholiques, en général. Lagrange, fondateur de l'école biblique, mais néanmoins catholique, tout ce qui est plus conventionnel, disait « c'est l'amour qui conduit au pardon ». En protestantisme, on dit plutôt « c'est le pardon qui vient en premier et qui provoque l'amour, qui permet l'amour ». Et on le dit notamment avec ce genre de texte. Et on arrive à la quatrième séquence, les versets 48 à 50. On ne nous dit rien de la réaction de la femme. En fait, on ne sait pas comment elle accueille la parole de Jésus.
C'est ça qui est intéressant de savoir.
Mais oui, hein. Il y a plein de choses qu'on aimerait savoir et qu'on ne sait pas. Ces évangiles, c'est vraiment une mauvaise biographie quand même.
Il faut les réécrire.
Oui, oui. On ne sait rien, on ne sait pas grand-chose de Jésus, on ne sait rien de ses femmes, tout ça. Ouais, c'est un peu limite. Hein. Bon. En tous les cas... j'aurais tendance à dire tant mieux qu'on ne sache pas la réaction de la femme. L'important, c'est que Jésus ouvre une nouvelle compréhension, chacun est libre de s'en saisir ou non. Parce que la femme ne réagit pas, on peut être la femme plus facilement et avoir sa propre réaction. Parce que la femme, c'est nous, bien sûr. C'est Simon, donc c'est nous. Et au fond, c'est une fin ouverte. C'est les fins qu'on n'aime pas au cinéma parce qu'on aimerait que tout soit cuit, tout soit préparé, qu'il n'y ait plus qu'à digérer. Mais précisément, on est dans l'ordre de l'éthique et pas dans l'ordre de la morale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette qui fonctionne de façon automatique. Si ça se trouve, la prédication de Jésus, la catéchèse de Jésus n'a pas fonctionné. Si ça se trouve, la femme, elle n'a pas pleinement conscience de la nouvelle vie que Jésus lui met devant elle. Mais peut-être qu'au contraire, elle est bouleversée et que sa vie va profondément changer. Et qu'elle va arrêter de faire de sa vie un objet de consommation. Et donc, c'est vrai pour nous aussi. C'est vrai pour nous aussi.
Alors, dans le verset 49, puisque il y a une question moi que je trouve fondamentale, enfin qui explique aussi, c'est... dans la deuxième partie, qui est celui qui pardonne même les péchés?
Oui.
C'est l'interrogation qui se font tous. Parce que Jésus a dit, va, tes péchés te pardonnent. Or, justement...
Un peu scandalisé, même.
Ça, c'est scandale.
C'est, voilà. Qui, dans le judaïsme ancien, avait le droit de pardonner? Alors, ça me semble, c'est Dieu uniquement qui a le droit de pardonner. Les hommes n'avaient pas le droit de pardonner. Et alors, je me réfère à ce que vous avez fait dimanche dernier au culte, enfin que vous avez fait aux deux jeunes qui, lycéens qui ont fait la liturgie, et à la fin du culte, c'est le lycéen qui a
béni.
Fait la bénédiction. Comment ? Ben oui, c'est génial. Enfin, c'est le contraire même. C'est le contraire même de ce verset, en quelque sorte. Tout le monde a le droit de pardonner.
Ben,
c'est pas réservé à Dieu.
Oui, mais c'est-à-dire que ce verset 49, qui est la contestation de la foule, c'est pas parole évangile. C'est une parole qui conteste l'évangile. L'évangile qui est effectivement dans l'ordre du...
le pardon. C'est une parole de Jésus qui conteste la pensée
De la foule, là, ouais, c'est ça, oui.
Enfin, la pensée de la foule, mais c'est la pensée enseignée, hein,
c'est ça,
unique,
bien
sûr. Seul Dieu avait le droit de pardonner, les hommes n'avaient pas le droit de pardonner.
Mais d'ailleurs, en fait, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est une question qui prépare d'autres questions qui vont surgir dans l'évangile. C'est l'interrogation d'Hérode, chapitre 9, versets 7 à 9. L'opinion des foules, chapitre 9, versets 18 à 19. Et qui va aussi préparer la confession de Pierre, chapitre 9, verset 20. Mais là, il y a une réaction, il y a une mise en cause, il y a une contestation, il n'y a pas de réaction de Jésus. En fait, d'un autre côté, Jésus, il ne pardonne pas les péchés. Moi, je suis désolé, mais là, dans ce texte, Jésus, une fois de plus, ne pardonne pas les péchés.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Il témoigne que le péché de la femme a été pardonné. Vous êtes un passif. Et alors, passif divin, voilà exactement. C'est exactement que dans c'est la même chose que dans l'épisode du paralytique. D'ailleurs, vous pouvez voir que ces versets 48 et 49 trouvent des parallèles avec le chapitre 5, versets 20 à 21. La contestation de la foule. Mais qui est cet homme qui pardonne, etc. Et puis, ta foi t'a sauvé, etc.
C'est peut-être la confusion entre bénir et pardonner.
Mais bénir, pareil. C'est pas le pasteur qui bénit l'assemblée. C'est Dieu qui bénit. Et c'est pas le pasteur qui baptise, à vrai dire. En fait, c'est un abus de langage quand on dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ça veut dire que c'est Dieu qui baptise. Mais oui, c'est ça. Quand le pasteur a un geste de bénédiction et dit des paroles de bienveillance à l'endroit du peuple de Dieu rassemblé dans sa maison, c'est pas une lubie du pasteur. Il n'est que le porte-parole d'un message qu'il reçoit et qu'il transmet. Jésus est de l'ordre du témoignage. Il est témoin d'une scène qui s'est jouée antérieurement. Et là, effectivement, on est dans un vrai passif. Et au fond, ce que dit Jésus, il le dit à la femme, mais il le dit à la femme pour Simon. Parce que la femme... Elle avait conscience d'être pardonnée. Peut-être qu'il manquait la formulation, il manquait l'explicitation. Mais il y avait quelque chose en elle qui lui faisait comprendre qu'il y avait cette réconciliation.
Sinon, elle serait pas
venue. Sinon, elle n'aurait pas pleuré. On reprend ça. On reprend ça. Donc...
Sur le plan psychologique, c'est très vrai, parce que le pardon se passe à l'intérieur de la personne. C'est pas quelque chose de sur le plan métaphysique ou sur le plan philosophique. Le pardon, c'est pas quelque chose de l'ordre du remords. Ça va bien au-delà. C'est de l'ordre de la transformation intérieure.
De la repentance.
Ouais.
De la transformation intérieure qui va permettre que l'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Je dis ça par rapport à, je pense, à des choses que j'ai pu observer chez des alcooliques guéris, chez des choses comme ça. C'est aussi de se mettre en situation de ne pas recommencer dans sa faute.
Oui, oui, c'est ce que dit Jésus, va et ne pêche plus par ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas une injonction, une exhortation, en disant, bon, maintenant, tu te tiens à carreau, c'est à chaque fois une parole en disant, tu es capable de. Va et ne pêche plus, c'est pas, tu as l'obligation de ne plus pêcher, c'est, tu es capable d'avoir une autre vie. Ben, c'est exactement ça. Hein. Ouais, ou de la culpabilité.
Ouais.
Alors, un grand crime, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Non, mais il y a et la justice et le pardon. Mais ce sont deux économies différentes. Parce que la justice, elle est de l'ordre de l'équivalence, et le pardon est de l'ordre de l'inéquivalence.
C'est pas la justice. C'est quand quelqu'un est condamné, c'est Dieu qui doit c'est lui qui doit se faire pardonner par Dieu, alors, s'il est puni par la loi.
Après, les options théologiques. On verra ça dans le genre, dans le. Y a-t-il des pardons impossibles ou y a-t-il des choses à ne pas pardonner? Moi, comme ça.
Parce qu'à l'échelle individuelle, c'est individuel.
Oui. Mais moi, je. Ouais.
C'est pas le même genre de pardon.
Mais le pardon, en fait, c'est de se demander si. Quelqu'un, par exemple, est capable d'être un autre ou autre chose que ce qu'il a montré jusque-là. Donc c'est à la fois la question de la repentance, de la capacité à pouvoir changer. Est-ce qu'on peut se libérer, est-ce qu'on peut être libéré de ce qui nous a conduit à avoir tel ou tel comportement ? C'est-à-dire que la punition, je ne suis pas sûr qu'elle soit très pédagogique. Mais... disons que déjà, je pense que la justice ne punit pas. La justice a tendance plutôt à isoler, à préserver dans les peines de prison, par exemple. C'est plutôt ça. C'est qu'on considère que telle personne... Alors, si, bien sûr, il y a des punitions, il y a des amendes, etc. Mais...
L'horrible type qui a coupé la fille en morceaux, là...
Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a la question de la faute, mais il y a la question de l'humanité du criminel. Et donc, la première, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire pour lui et ce que l'on peut faire pour la société. Donc, il y a la préservation de la société. Donc, ça relève de l'isolement. Et puis après, il y a les soins thérapeutiques. Parce que manifestement, pour cette personne, il y aura quelque chose qui est de l'ordre du soin thérapeutique. Mais le pardon est d'une autre nature. Le pardon, c'est une fois de plus, est-ce que l'on peut retrouver les traces d'une humanité perdue chez la personne en question ?
Parce qu'on pardonne des gens, mais on pardonne pas. On pardonne des gens, on pardonne des fautes.
On pardonne des personnes.
Oui, on pardonne des fautes aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui sont impardonnables ?
Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. On ne.
Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est sûr. Il y a toujours quelqu'un qui est toujours capable de faire mieux, de changer un temps, alors que les faits, ils sont là.
Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas pardonner les faits. Les faits sont là.
Et il n'y a pas. On peut pardonner les gens.
Oui. De même qu'on ne bénit pas les choses, on bénit les personnes.
Donc, bénir une médaille, ça va.
Si, ça peut faire plaisir. Enfin, moi, je ne fais pas de religion en la matière, mais bon, je ne bénis pas les bateaux, je ne bénis pas les médailles, je ne bénis pas les alliances non plus, d'ailleurs. Je pense que cette personne qui pleure, et on voit de quelle manière les pleurs relèvent de la réconciliation, est en fait en train d'éprouver le fait qu'elle est réconciliée avec elle-même, c'est-à-dire réconciliée dans son identité, réconcilier dans sa vocation personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle découvre, et c'est ce qu'elle va faire avec Jésus, je pense, qu'elle n'a plus besoin de jouer un rôle social différent de ce qu'elle aspire à être. C'est-à-dire qu'elle va vraiment pouvoir aimer, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, elle tenait un rôle de composition. Elle n'a plus besoin de faire la comédie de l'amour. Elle n'a plus besoin de faire semblant. Elle peut vraiment aimer. Le véritable amour, dans le registre biblique, c'est l'agapé. C'est exactement ce que Jésus repère. Alors que tous les gestes que l'on a vus, ça nous semble être de l'éros pur, hein, comme ça a été dit. Et donc, en fait, elle n'a plus besoin de simuler la chorégraphie de l'amour. Elle est rendue à elle-même. Oui.
Le pardon serait de la provocation à la modification du jugement personnel.
Oui.
Si j'ai bien compris, oui, ce que vous dites.
C'est une restauration de l'identité.
Une restauration de l'identité. Alors le problème qui se pose, ce secondaire, dans votre analyse, en ce qui concerne le pardon, c'est de savoir, si, lorsqu'on va pardonner, si on est dans la vérité ou si on ne l'est pas. Comment peut-on savoir qu'on va provoquer, si vous voulez, une modification sur le plan psychologique de la personne et qui en fait se retrouvera à l'aube d'une nouvelle vie, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Et alors, le personnage de Jésus apparaîtrait là, comme dans d'autres cas d'ailleurs, comme une sorte de thaumaturge. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Une sorte de médiateur, en quelque sorte.
Je préfère déjà.
Le médiateur entre la terre et le ciel, oui. N'est-ce pas ? Qui, par son action propre, permettrait justement cette modification.
Oui.
Voilà. Alors, c'est très important parce que le pardon, dans cette définition, va au-delà d'une seule action psychologique. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Et qui a une dimension psychologique, je dirais même psychiatrique à la rigueur, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, ça va au-delà. Oui. Et d'un autre côté, ça reste très en deçà sur le caractère mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Vous parlez de vérité, moi je parlerais de garantie. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne.
C'est-à-dire, il n'y a pas de garantie, c'est
ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que la parole de Jésus soit performative.
Voilà, c'est ça.
C'est pas sûr que sa parole atteigne le but escompté. Et alors, c'est pas une raison pour retenir cette parole.
Voilà, mais elle est nécessaire.
Le pasteur en chair est pas convaincu qu'il sera bien compris. Eh ben,
c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant.
Voilà, ouais. C'est comme la femme, elle a obligation de moyens, mais pas de résultats dans le métier qu'elle exerce.
Elle peut continuer son métier, d'ailleurs.
Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'elle le fera différemment. À la limite, c'est pas le problème, mais c'est surtout que c'est pour éviter de fermer la lecture. C'est vraiment pour garder l'interprétation ouverte. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on veut insister sur le fait qu'ici, elle éprouve la grâce. Chez Luc, c'est un thème fondamental. Elle n'a plus besoin de monnayer ses talents pour accomplir le rituel de la prostitution. Là, et en fait, c'est elle qui dépense de l'argent. C'est elle qui se donne. C'est elle qui pète sa personne, pour le coup. Et elle peut aimer en créant sa propre manière de faire et en s'offrant corps et bien. Jamais une prostituée s'offre corps et bien. Et là, la mention du vase d'albâtre avec le parfum, c'est pour injecter le fait qu'elle s'offre corps et bien. Et donc, elle est dans une relation de la gratuité, de l'excès. C'est de l'ordre de l'agapé, c'est plus tout à fait de l'éros. Voilà. Mais, tout à l'heure, je parlais de la stérilité. Justement, elle n'est plus dans la reproduction d'un schéma classique qu'elle faisait de façon certainement très professionnelle, peut-être très mécanique. Voilà, elle n'est plus simplement dans quel est le menu que vous voulez pour aujourd'hui, en fait. Et Jésus reste extrêmement passif. On aurait pu parler de la réaction de Jésus.
Ah oui.
Il dit rien, il ne moufte pas, il se laisse faire. Il aurait pu avoir une réaction de dédain ou au contraire. Jésus se contente d'observer Simon.
Ah oui, par contre, lui, alors, ça n'a rien donné.
Voilà. Mais au fond, si ça avait été un autre que Jésus, ça n'aurait pas été différent. C'est-à-dire que la relation entre la femme et Jésus à ce moment-là, avant que Jésus prenne la parole, je veux dire, elle ne met pas en jeu la christologie, ou elle ne met pas en jeu le caractère christique de Jésus. Oui. Il ne se passe rien, en fait. Jésus est comme indifférent par rapport à ce qui se passe. C'est ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de réaction. Ah, mais c'est tout à la fin, vous allez si vite, vous... On a dit que c'était au moment où il était en train de recevoir les soins prodigués par cette femme. Et quand il prend la parole, effectivement, ce n'est pas pour commenter la geste de la femme, c'est même pas pour la remercier ou quoi que ce soit, on aurait pu avoir un petit peu de reconnaissance, c'est pour s'adresser à Simon et faire de la maïeutique socratique.
Quand cette femme arrive, elle vient pas trouver Jésus un peu comme quelqu'un qui viendrait à confesse. Elle est manifestement... Elle a quelque chose qu'elle ne peut plus supporter dans sa vie. Hein, et elle vient trouver Jésus. Donc on peut déjà s'interroger enfin, sur le fait qu'elle ait trouvé Jésus, c'est que Jésus était revêtu déjà aux yeux de tous, pas uniquement d'un pouvoir, mais enfin d'une aura,
d'une autorité.
D'une aura ou d'une autorité.
Bon.
Elle ne vient pas, c'est pas du tout le sens de ce texte, avec l'idée de se faire pardonner ses péchés. Elle vient trouver quelqu'un qui puisse, en quelque sorte, la reconnaître et la sortir de cette condition d'exclusion, au fond, finalement, vis-à-vis de la société. Enfin, d'accord, c'est une autre chose, mais c'est pas... Je suis sûr qu'elle a dû être la première surprise quand Jésus lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ».
Oui, parce que pour elle, à mon avis, ça ne devait pas rentrer dans ce genre de catégorie religieuse.
C'était pas ça qu'elle cherchait.
Oui. C'est-à-dire que Jésus reformule quelque chose qu'elle éprouvait, dont elle avait l'intuition, mais que certainement, elle ne plaçait pas dans ces catégories aussi fortes que le pardon, la foi, le péché, etc. Simplement, c'est ce qu'on disait. Elle sentait qu'il y avait une restauration de son être possible. Oui. Vous savez, on est avec quelqu'un et on se sent vraiment soi. Ça arrive, ça. L'être aimé. On est avec l'être aimé et on se sent avec l'être aimé comme jamais on se sent. Ouais. Et c'est ça, la restauration. Et au fond, avec Jésus, elle a... cette présence d'un homme qui la rend à elle-même.
Qui la condamne pas.
Et
ceux qui vont tirer le manteau, qui vont au fond de lui, qui vont... C'est un peu ça aussi.
Oui, bien sûr. Et pitié de moi, dit l'aveugle, Bartimée, etc. Oui. Et ce que fait Jésus, c'est d'utiliser le pardon comme clé d'interprétation du geste de la femme. Parce que la femme, elle ne va pas mettre ça dans le registre du pardon. C'est Jésus qui le fait. Ouais. Mais... finalement le caractère érotique de la situation, il l'analyse comme de l'agapé. S'il y a de l'agapé, ça veut dire qu'elle a été bouleversée par Dieu. Ça veut dire qu'elle a laissé l'action de Dieu, l'agapé c'est toujours Dieu qui en est le sujet, elle a laissé Dieu, l'action de Dieu, l'espérance de Dieu s'attaquer à elle. Et elle a fait de la place à ça. Donc voilà, Jésus ne transforme pas l'héros en agapé. Il repère l'agapé qui est à l'œuvre à travers ce qui est disponible chez cette femme. Ce qui est disponible chez nous. L'éros, le désir. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de condamner l'éros. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de condamner le désir, mais au contraire de le valoriser. Parce que c'est ce qui est à notre disposition pour faire valoir ce que Dieu attend de nous. Au fond, ce sont nos outils. Et c'est par là que l'amour de Dieu peut frayer son chemin. Donc Jésus ne récuse pas l'éros, il en fait la voie spécifique à cette personne et spécifique à nous. Pas de désir, pas d'éros, pas d'envie, et ben en fait pas de vie quoi. La difficulté, et là c'est vrai que c'est à la limite de la psychanalyse, c'est que il y a le couple éros-thanatos, et c'est en ce sens que si l'éros n'est pas informé par l'agapé, par l'amour gratuit, dans ce cas là ça frise au thanatos. Qu'est-ce que ça signifie en termes clairs? L'éros, le désir, c'est avoir chez l'autre ce qui me manque. Si c'est juste ça, et ben en fait, c'est extrêmement mortifère. L'autre, c'est le garde-manger dans lequel je me sers. Pas simplement sur le registre sexuel, mais ça peut être à tout point de vue. Si ce n'est pas alimenté par l'agapé, qui est en fait un amour gratuit, qui ne cherche pas à conquérir, qui ne cherche pas un échange, qui ne cherche pas une réciprocité, et ben dans ce cas-là, ce dont je suis capable... le désir, va pouvoir trouver aussi ses limites. La limite, c'est le respect de l'autre, c'est reconnaître l'autre comme un semblable, etc. Donc, ne pas le dépouiller. Je vous lis un peu de Rodolphe Boutmann. Ça ne peut pas faire de mal à votre âme. Dans Foi et compréhension, voici ce qu'écrit Rodolphe Boutmann. L'amour de Dieu... Je n'ai pas la peine de noter, hein. Si vous voulez la référence, je vous la redonnerai un jour. L'amour de Dieu, je ne puis qu'y croire quand il est réel et me rencontre dans l'histoire dans laquelle je me trouve. En même temps, l'action de l'amour divin sur moi devrait être telle qu'elle me pardonne le manque d'amour dans lequel je me trouve de fait. Elle devrait être le bon divin qui me délivre de mon passé, marqué par la haine, et que j'apporte dans chaque présent. L'amour n'est donc possible qu'en vertu de la foi qui saisit le pardon des péchés, offert par la parole de Dieu, et qui se sait aimé de ce pardon et libérés pour l'amour. Le pardon de Dieu qui nous libère pour l'amour. Voilà ce qu'on peut retenir de ce qu'écrit Bultmann. La foi, c'est la conscience. La foi, c'est avoir confiance dans le fait que ces boulets ne sont plus des entraves. Les fameux cadavres dans nos penderies, etc. Du coup, regardons bien le texte. Jésus, c'est Paul Tillich qui le dit. C'est même pas moi. Paul Tillich qui dit « Jésus n'absout pas cette femme ». Il déclare qu'elle est pardonnée. Son état d'esprit, son transport d'amour montrent que quelque chose lui est arrivé. Il écrit ça dans un livre dont le titre est tout à fait évocateur, « L'être nouveau ». Voilà. Si cette femme aime de cette façon, c'est parce qu'elle a été aimée. Jésus est témoin d'une scène qui s'est jouée antérieurement. Au fond, elle est là un peu la vocation du chrétien dans la perspective de la théologie du process. La théologie du process, c'est Dieu qui en permanence essaie de stimuler l'être humain pour qu'il devienne vraiment qui il peut être. Et l'Église, les membres de l'Église, sont là pour témoigner, pour observer quelles sont ces petites stimulations, ces petits stimuli que Dieu fait à chacun. Au fond, c'est de pouvoir être Christ pour les autres. C'est de pouvoir être ce que Jésus fait. Au fond, ce que tu as fait là, je crois que ça témoigne que tu peux faire de bien plus grandes choses encore. Au fond, là, il y a un peu la signature de Dieu dans ta vie, et peut-être que ça pourrait être la base sur laquelle tu peux t'épanouir encore plus. Au fond, c'est aider les autres à faire la connaissance de cette scène qui s'est jouée antérieurement, ce qu'on avait intitulé il y a quelques mois, le pardon originel. Le christianisme, dans sa forme traditionnelle, nous a bassinés avec la question du péché originel. Il faut impérativement faire passer devant le pardon originel. Parce que ça, c'est l'évangile. La femme a reçu beaucoup d'agapé divine, elle est capable d'offrir de l'éros. Et Jésus repère que c'est l'agapé qui est à l'origine de cette capacité d'éros. Donc Jésus ne transforme pas l'amour humain, il en désigne l'origine, la nature profonde. Et c'est cela qui nous rend capables d'en faire encore plus. C'est la raison pour laquelle, en principe, en théologie réformée, on ne devrait pas avoir l'ordre du culte qu'on a à l'oratoire du Louvre. En principe, nous, à l'oratoire du Louvre, on a volonté de Dieu, pardon du péché, annonce de la grâce. On devrait avoir prière de repentance, donc pardon du péché, prière de repentance, confession du péché, annonce de la grâce et volonté de Dieu. Parce que le pardon du péché, c'est ce qui nous rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est le troisième usage de la loi, développé par Jean Calvin. La loi, c'est pas ce qui nous condamne, c'est pas simplement le modus vivendi qu'on se donne pour que la vie soit vivable et que ça soit pas à l'enfer. La loi, c'est ce que Dieu nous rend capable de faire. C'est l'horizon vers lequel il nous donne d'aller. J'ai besoin d'alliés. Bon, voilà.
Tu leur expliques un peu.
Ouais, mais vous savez, pour moi, la foi, c'est la religion du fort intérieur. Même si c'est pas vécu dans les termes, je m'en sors quand même. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre aussi cette structure anthropologique. Parce que sinon, que se passe-t-il? On est dans une théologie des œuvres. Il faut aimer pour être pardonné. Donc, il faut faire des bonnes œuvres pour que Dieu s'intéresse à nous. Eh ben non. Premièrement, il y a la grâce de Dieu. Et ensuite, il y a la possibilité de déployer toute notre inventivité et toute notre singularité. On n'est pas là pour entrer dans un entonnoir. On est là, au contraire, pour retourner l'entonnoir et pour aller dans toutes les directions que Dieu nous offre. Voilà. Bon, je présume, j'espère que votre foi vous a sauvé. Allez en paix.